Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir aufs Floß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und Femme. Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femmes, Radio Zone 93.8. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons en direct dans nos studios de Ferney, ce qui signifie que vous pouvez nous appeler, intervenir durant l'émission. C'est très simple, vous faites le 04 50 40 51 41, je répète 04 50 40 51 41, 059 4 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Dans Remue-ménage aujourd'hui, je vous propose la rediffusion d'un regard au féminin lors de voyages, un voyage que j'avais effectué en Palestine au printemps 97. Regard sur la Palestine qui garde toute son actualité au moment où le processus de paix est vraiment très enterré par la politique absolument démente du Premier ministre Netanyahou. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose mon regard à nouveau sur un autre pays et peut-être sur un autre mode. Je suis allée il y a 15 jours environ en Palestine. Je dis bien Palestine, je ne suis pas allée en Israël, je suis allée en Palestine. Bien évidemment, aujourd'hui, pour aller en Palestine, il faut aller en Israël puisque la Palestine n'a pas le droit d'avoir un aéroport. Donc forcément, vous transitez par l'aéroport de Tel Aviv sur le sol israélien. Et puis, si vous voulez vous rendre en Palestine, ben vous savez bien qu'aujourd'hui, ce sont quelques petits points sur la carte de cette région du monde qui sont devenus autonomes sous autorité palestinienne depuis les accords d'Oslo, dits les accords de paix d'Oslo. Beaucoup de choses ont été dites sur ces accords de paix. Vous savez certainement qu'aujourd'hui, la tension est extrêmement vive en Palestine, entre autres depuis que M. Netanyahou, nouveau Premier ministre, élu en la fin de l'année 1996, pratique ce qu'il avait annoncé pour se faire élire, à savoir qu'il n'allait pas rétrocéder, il n'allait pas céder aux exigences des Palestiniens. Et il l'a bien pratiqué, entre autres en refusant d'arrêter les implantations de colons sur les terres palestiniennes et en annonçant notamment la construction d'une colonie israélienne sur la montagne d'Abu Ghneim qui se trouve dans le pourtour de la ville de Jérusalem-Est, Jérusalem-Est qui pourtant est sur territoire palestinien et considéré comme lieu d'habitation des Palestiniens, les Hébreux, les Juifs, les Israéliens occupant normalement Jérusalem-Ouest. Mais bien évidemment, pour les Israéliens, depuis la guerre des six jours, Jérusalem leur appartient intégralement et est annoncée comme étant la capitale unique de l'État d'Israël. Alors, nous avons passé, Isabelle, Nathalie et moi, nous étions trois femmes, à Jérusalem un certain nombre de temps, partageant chacune notre temps divers objectifs. Nous rencontrerons Nathalie la semaine prochaine lors d'une deuxième émission avec un projet très particulier qu'elle avait, elle, qui l'a fait se rendre en Palestine plusieurs fois. Ce voyage était le troisième, si je ne me trompe pas. Isabelle et moi, eh bien, nous avions décidé de nous y rendre parce que tout à coup le temps était disponible et que l'une et l'autre, pour diverses raisons, nous avions envie de nous rendre dans cette région du monde. Alors, J'ai eu l'occasion de rencontrer diverses personnes, de faire des interviews, ce que je n'avais pas pu faire, par exemple, en Palestine. Enfin, je n'avais pas choisi de le faire. Cette fois-ci, je ne pouvais pas aller dans cette région du monde sans ramener des témoignages, parce que parler, faire savoir ce qui se passe là-bas, me semblait une urgence extrêmement grande. Chaque fois, les gens nous disent « Mais qu'est-ce que les gens savent dans votre pays sur ce qui se passe chez nous ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Quelle est la position de votre gouvernement ? Si votre pays est occupé, qu'est-ce que vous feriez ?» Enfin, les questions sont bombardées comme ça. Et la seule chose que chaque fois on se sent capable de répondre, c'est de dire « Mais je ne peux pas faire grand-chose. La seule chose que je peux faire, c'est dire, c'est témoigner de ce que j'ai vu, de ce que vous me racontez, de ce que j'ai vécu. » Alors aujourd'hui et puis mercredi prochain, eh bien dans Onde Femme Remue Ménage, partage de ces rencontres au cours de ces 15 jours passés en Palestine, à rencontrer des hommes, des femmes, des étudiants, des jeunes, des enfants. Je vous raconterai tout ça, mais tout de suite, eh bien, je vous propose, comment dire, de partir, de vous mettre un petit peu dans l'atmosphère des lieux là-bas. Parce que les lieux, eh bien, vous les imaginez certainement, j'en suis sûre, c'est bien évidemment les marchés, c'est les sons du muezzin, c'est... Et puis Jérusalem, c'est la confrontation de toutes les religions qui sont là dans cette ville, puisque Jérusalem est la ville sainte de trois religions en tout cas. C'est la religion juive, c'est la religion musulmane, et ce sont les chrétiens, et qui chacun ont leur quartier dans le vieux Jérusalem, chacun a leur lieu saint, leurs églises, et chacun leur son. Alors tout de suite, un premier son, vous le reconnaîtrez tout de suite. Alors bien évidemment, j'espère que vous vous êtes bien retrouvés dans le souk, dans le marché. Celui-ci, en l'occurrence, eh bien, ce n'est pas celui de Jérusalem, c'est celui de Ramallah. Ramallah est la ville la plus proche qui est devenue palestinienne, sous autorité palestinienne avec les accords de paix d'Oslo. Ces accords qui aujourd'hui laissent tous les Palestiniens et Palestiniennes que j'ai pu rencontrer totalement amers, monstrueusement écrasés par l'arrogance et des Israéliens et les choses qui n'ont pas changé, voire même qui se sont aggravées au cours du temps depuis que ces fameux accords ont été signés à Oslo en 1993. Alors, peut-être faut-il quand même expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui a changé, qui aurait dû changer. Donc, d'abord, un certain nombre de villes ont été petit à petit vidées de l'armée israélienne. C'est ce qu'on appelait le redéploiement. C'était d'abord la ville de Jéricho, près de la mer Morte, en dessous du niveau de la mer, avec un climat délicieux à cette époque de l'année. Et puis, c'est Ramallah, justement. C'est ensuite Naplouse et puis Hébron. Tout d'abord, j'ai oublié d'abord la bande de Gaza. Et puis Hébron, finalement, qui mettra beaucoup de temps à être cédé aux Palestiniens, vu le fait qu'il y a une colonie juive d'environ 200 Israéliens qui se trouve dans la ville d'Hébron, parce qu'ils veulent être tout proche du tombeau des patriarches, cet endroit qui est censé être un lieu saint aussi bien pour les musulmans que les juifs, qui avait d'ailleurs causé cette hécatombe épouvantable où un colon avait tiré sur des pèlerins musulmans au tombeau des patriarches, faisant une hécatombe épouvantable. Et bien, pour protéger ces 200 colons juifs, il y a aujourd'hui 400 militaires israéliens, comme ça, dans une enclave au milieu de la ville d'Hébron. Et ces colons vivent dans leur prison, si on peut dire, et ils l'ont bien cherché dans la ville d'Hébron devenue enfin à nouveau palestinienne. Mais hélas, c'est tant souvent l'objet d'affrontements très violents entre les habitants palestiniens, les jeunes de nouveau, qui sont dans la rue à nouveau à lancer leurs pierres, les seules armes qu'ils ont, auxquels on leur répond en face avec des fusils soi-disant à balles en caoutchouc, mais on s'aperçoit que des gens meurent, des jeunes meurent, et avec des vraies balles, ils sont morts. Parfois, ils meurent aussi avec les balles en caoutchouc quand celles-ci leur sont tirées dans la tête et provoquent des lésions mortelles. Il n'y a pas qu'à Hébron où des gens et des jeunes meurent. Dans toutes les autres villes palestiniennes autonomes, il y a eu des affrontements à Ramallah, à Annapolis, et il y a eu des morts aussi, et à Gaza aussi, avec des attentats provocateurs dont les Israéliens disent que ce sont des coups manqués du Hamas, par exemple, des bombes qui explosent et qui blessent des Palestiniens. Mais tout porte à croire, et c'est pas moi qui le dis, on le trouve dans des analyses dans les journaux, que ce sont des provocations, des attentats provoqués par le service secret israélien. Tout comme d'ailleurs, de nombreuses analyses dans les journaux que j'ai lues là-bas disaient que même l'attentat terroriste de Tel Aviv, qui a été tout de suite attribué au Hamas, parce qu'il avait soi-disant été revendiqué par téléphone, mais pas du tout confirmé par le Hamas, eh bien cet attentat qui avait fait 4 morts sur une terrasse de restaurant à Tel Aviv, eh bien, semble-t-il, serait aussi à l'instigation du service secret israélien, qui, bien sûr, a tout intérêt à ce que l'on accuse les Palestiniens de terrorisme. Alors, de nombreux morts pendant tous ces jours. J'y suis restée 15 jours. Dans la première semaine où j'étais en Palestine, 5 jeunes sont morts, soit à Gaza, soit à Ramallah, soit à Hébron. Et c'est tous les jours comme ça, des affrontements. Mais il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que vous pouvez arriver en voiture, comme nous par exemple, à l'entrée de Ramallah. Il y a les soldats israéliens qui bloquent l'entrée de la ville. Il y a des affrontements, on les voit au loin. On détourne mais vraiment quelque chose de très court à ce jour-là, en tout cas. Et 2 rues plus loin, on se retrouve au plein cœur de Ramallah. Et là, il n'y a plus rien. On est dans la vie quotidienne, au soleil, à boire le thé ou le café dans un petit bistrot. Et puis, on ne sait plus rien. Tout est normal, si l'on peut dire. Et ça, pour nous qui ne sommes pas habitués à ces choses-là, passer à la fois de la présence de l'armée, des affrontements, et dans les 5 minutes qui suivent, à la vie, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est quelque chose de complètement étrange. On a l'impression que les Palestiniens, eux, se sont habitués à passer de la violence à la vie normale. C'est toujours entre guillemets ce normal. Mais c'est difficile à comprendre ce qui se passe dans ces circonstances. Je disais, l'armée israélienne bloque l'entrée des villes quand il y a des affrontements. En fait, elle ne se contente pas de bloquer l'entrée des villes quand il y a des affrontements violents. Elle le fait tous les jours. Et dans quelles circonstances? Eh bien, les accords d'Oslo ont décidé qu'il y avait des zones autonomes palestiniennes. Mais en dehors de ces petites tâches, et vraiment, si vous regardez une carte de la Palestine aujourd'hui, vous verrez bien à quel point ce sont des minuscules points. Aujourd'hui, les zones autonomes palestiniennes représentent à peine 1% de la surface de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui était normalement le territoire officiellement attribué aux Palestiniens par l'ONU en 1947. Et donc, normalement, ces accords stipulaient qu'il fallait pouvoir circuler, bien évidemment, d'une zone autonome à une autre, puisque le restant du territoire cisjordanien étant contrôlé, continuant à être contrôlé par les Israéliens. Eh bien, c'est au contraire extrêmement difficile aujourd'hui de circuler d'une zone autonome palestinienne à une autre. Les Israéliens n'ont pas hésité, et ça je crois que quand même on le sait ici, n'ont pas hésité à construire des routes exprès pour relier les colonies les unes aux autres, routes prises bien évidemment sur les terres palestiniennes, donc ayant occasionné encore de nouvelles expropriations de terres, et ces routes n'ont le droit d'être empruntées que par les Israéliens. Les Palestiniens n'ont pas le droit de circuler sur ces routes-là. Et bien au contraire aussi, il n'y a pas de route qui relie les zones autonomes palestiniennes l'une aux autres. Et il y a au contraire toutes sortes d'empêchements pour permettre aux Palestiniens de circuler librement en Cisjordanie et jusqu'à la bande de Gaza. Comment ça se passe? C'est qu'il y a aujourd'hui 3 cartes d'identité, trois cartes de résident. Il y a celle délivrée aux Israéliens et aux résidents de Jérusalem. Ça, c'est une carte qui leur permet de circuler où ils veulent, bien évidemment. Mais il y a à Jérusalem des Palestiniens qui ont droit à cette carte-là, pour autant qu'ils habitent dans Jérusalem et toutes sortes d'autres contraintes. Nous allons en reparler tout à l'heure, ce sera l'objet de l'interview que j'ai faite à Jérusalem. Ensuite, il y a une carte de résident pour les Palestiniens dans les villes autonomes palestiniennes. Cette carte ne leur donne le droit de résider que dans le village ou la ville où ils habitent. Ils n'ont pas le droit d'aller ailleurs ou ils ont toutes sortes d'inconvénients pour se déplacer, pour aller ailleurs. Ils doivent demander chaque fois l'autorisation de se déplacer ou l'autorisation de résider ailleurs. Nous allons en reparler aussi. Et puis, il y a la carte d'identité réservée à ceux qui résident dans la Cisjordanie, encore sous contrôle israélien, et qui aussi interdit, tout comme celle donnée aux Palestiniens des zones autonomes, interdit d'aller à Jérusalem. Donc aucun Palestinien n'a le droit, à part ceux qui y habitent, à venir à Jérusalem. Ils sont totalement écartés de la ville de Jérusalem. Alors comment ces cartes d'identité fonctionnent? C'est que à la sortie de chacune de ces zones, vous avez des checkpoints, des contrôles faits par l'armée israélienne. Et si vous avez la mauvaise carte d'identité, eh bien vous ne passez pas. En tant qu'étranger, évidemment, on passe partout, on a ce privilège. Mais en même temps, à la fois, on peut se rendre compte de cette contrainte épouvantable par le fait que les moyens de transport ne vont jamais au-delà de ces checkpoints. Prenons un exemple. Si vous voulez aller à Birzeit, l'université de Birzeit, que beaucoup de gens connaissent parce que c'est une université qui a vraiment joué un rôle primordial dans une nouvelle forme d'éducation universitaire, qui a joué un rôle important dans un certain nombre de choses dans la lutte nationale palestinienne, des étudiants très engagés politiquement. D'ailleurs, l'université avait été fermée pendant 3 ans, pendant l'intifada. Eh bien, si vous voulez vous rendre à Birzeit, qui se trouve au nord de Jérusalem, avec entre les deux Ramallah, qui est une ville palestinienne autonome, je vous l'ai dit. Eh bien, vous prenez un taxi collectif à la sortie de Jérusalem-Est, puisque en l'occurrence, moi, j'habitais à Jérusalem, la vieille Jérusalem. Vous allez à la porte de Damas, là, vous trouvez des taxis collectifs, Ramallah, on vous appelle, vous montez, c'est vite fait, bien fait, pour 2 francs, on vous emmène à Ramallah. Le taxi sort de Jérusalem, donc il a des plaques et une carte de résident de Jérusalem, peut aller jusqu'à Ramallah. À l'entrée de Ramallah, si vous voulez aller à Birzeit, qui elle n'est plus sous cette carte d'identité-là, vous devez changer de taxi, prendre un nouveau taxi qui lui va vous emmener à Birzeit. Le taxi de Jérusalem aurait pu vous amener jusqu'à Birzeit. Ça dépend si c'est... Bon, en l'occurrence, taxi collectif, non, parce qu'ils vont de ville en ville. Mais un taxi normal aurait pu en partance de Jérusalem. Par contre, l'inverse n'est absolument pas possible. Je vous disais, les habitants de Jérusalem ont tous les droits. Mais dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Si vous venez de Birzeit, vous devez prendre un taxi collectif de Birzeit jusqu'à Ramallah. À Ramallah, vous prenez un taxi collectif de Ramallah. Vous prétendez venir jusqu'à Jérusalem. C'est impossible, puisque comme vous êtes de zone palestinienne, vous n'avez pas le droit d'aller à Jérusalem. Donc, le taxi peut vous emmener au mieux jusqu'au checkpoint à l'entrée de Jérusalem. Là, vous devez descendre, passer à pied le checkpoint israélien et si possible, vous arranger pour trouver un taxi de l'autre côté du checkpoint qui vous emmènera cette fois-ci à Jérusalem. Autre exemple, si vous avez été rendre visite à des gens qui habitent à Bethléem, par exemple, autre zone autonome palestinienne, comme ce fut le cas pour le mois, je vous en parlerai tout à l'heure, eh bien, la famille qui m'avait accueilli à Bethléem a envie de me reconduire. Ils ont une voiture, ils l'ont empruntée pour ce jour où j'étais avec eux, très fiers, ils ont envie de m'emmener, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas m'emmener. Alors, mais ils essayent quand même, ils ont envie. Alors, ils viennent avec moi en voiture, on sort de Bethléem et à la sortie de Bethléem, checkpoint israélien. Et là, ils posent la voiture, le beau-frère et puis la mère sortent de la voiture, m'accompagnent jusque vers le soldat israélien. Et puis là, on lui explique, je veux juste l'aider, dit le beau-frère, je veux juste la faire traverser, lui aider à trouver un taxi de l'autre côté, elle est venue chez nous, laissez-nous traverser. Vous avez bien vu, j'ai laissé ma voiture là, laissez-nous traverser. Impossible. Je pourrais traverser bien évidemment à pied, trouver de l'autre côté un taxi, mais eux n'auront pas le droit de traverser. Et je vous dis juste, Jérusalem-Bethléem, c'est environ à 15 km de distance, l'un de l'autre. Et puis, parfois, eh bien, à cause des checkpoints qui sont volants, ceux dont je viens de vous parler, sont là en permanence. Mais il y a sans arrêt des checkpoints que les Israéliens installent sous prétexte qu'ils pensent que quelque chose va se passer. Exemple, si... quand je suis allée à Beer Zeit avec Isabelle, eh bien, nous avons pu aller sans problème, quitter Jérusalem avec un taxi, aller jusqu'à Ramallah, changer de taxi collectif, ça c'est normal, c'est parce que ça va de ville en ville, et puis aller de Ramallah jusqu'à Beer Zeit en taxi, no problem. Mais Albert, qui lui est responsable des liens que Beer Zeit entretient avec toutes les universités à l'extérieur, dans les autres pays du monde, qui nous attendait pour nous faire rencontrer des gens, eh bien lui, il est arrivé bien après nous, parce qu'en l'occurrence, quand il est sorti de Jérusalem un tout petit peu plus tard que nous, peut-être 20 minutes, une demi-heure, et entre-temps, eh bien, les Israéliens avaient décrété qu'ils mettaient un checkpoint à l'entrée de Ramallah, parce qu'ils pensaient que des manifestations allaient avoir lieu. Et donc, ils ont bloqué... en l'occurrence, la voiture d'Albert, et il a dû faire un immense détour pour se rendre jusqu'à Beer Zeit, détourner Ramallah, dans lequel il n'avait pas le droit de rentrer à cause du checkpoint volant, faire 40 km de plus, parce qu'il faut éviter toutes les routes contrôlées par les Israéliens à l'entrée de Ramallah, pour pouvoir ensuite aller un peu plus au nord jusqu'à Beer Zeit. Voilà. Et puis, en sens inverse, nous étions donc à Beer Zeit. Il y avait eu un étudiant tué la veille. Il y avait des manifestations de deuil, de grève sur le campus pour montrer leur tristesse aussi leur colère à l'égard de cette mort et de ces violences nouvelles et de tout ce qui se passait, de la politique israélienne. Et puis, en fin d'après-midi, au milieu de l'après-midi, une délégation d'une centaine d'étudiants a décidé d'aller apporter leurs condoléances à la famille du martyr, comme ils disent, du shahid. Et sa famille habite à Beth Sahour, qui se trouve juste à côté de Bethléem. Donc Beer Zeit, Bethléem, normalement, en ligne droite, si je puis dire, mais il y a Jérusalem entre les deux, attention, c'est à peu près 35 km. 40 km, disons. Eh bien, en l'occurrence, nous avons dû faire un détour de 70 km pour éviter Jérusalem. Et encore en cours de route, eh bien, tous les taxis collectifs qui emmenaient les étudiants qui allaient porter leurs condoléances à la famille ont été tous arrêtés par un checkpoint volant israélien qui avait entendu parler de cette manifestation de condoléances, ont bloqué tous les étudiants, leur ont pris toutes leurs cartes d'identité et les ont maintenus là, arrêtés, refusant qu'ils continuent. Finalement, grâce à l'action des autorités palestiniennes qui ont été mises au courant de ce nouveau blocage, ils ont rendu leur carte d'identité aux étudiants et après plus d'une heure d'avoir été retenus sur la route, ils ont pu continuer leur chemin et aller présenter leurs condoléances à la famille de l'étudiant qui avait été assassiné. Alors, c'est comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Thank you. الحقير دون ألم للعقاب. لم نعرف أما غير الأرض ولم نعرف أن لهذه الأم أبناء غيرنا، وكان العمل هو وسيلة الاتصال الوحيدة بيننا. عشنا بدخول المعرفة والمنجة إلى حد التوحد، ولدنا هناك قبل سقوط المطر، وجدنا هناك قبل بلوغ أول شمس. لم تزعجنا أبدا روحة قطرات العرق التي كانت تسير على جباهنا السمر. كبرنا معا مع سنابل القمح ومع زخر الحنون ومع غروب أول شمس. لم نخشى الظلام ولا احتفلنا بأول زواج شرعي أبدي. عريسه فلاح عاشق وعروسه الأرض ومهره الفقس والمنجل. لننتظر معا أول مولود شرعي، فلسطين.
Que vous venez d'entendre, eh bien, c'est ce que j'ai pu enregistrer lors du congrès qui réunissait des représentants de tous les camps de réfugiés de Palestine. Et ce congrès avait pour titre 50 ans sous la tente. Et oui, depuis 1947, les Palestiniens ont fui à l'arrivée des Juifs qui allaient créer l'État d'Israël avec l'autorisation et la bénédiction de l'ONU. Et beaucoup d'entre eux sont partis, laissant tout derrière eux. J'ai lu récemment qu'on évaluerait à plus de 2 milliards de dollars en bâtiments, en maisons, en terrains que les Palestiniens ont abandonnés derrière eux et qu'ont récupéré, qu'ont exproprié, qu'ont gardé les Israéliens après la fuite des Palestiniens lors de leur arrivée. Alors ils disent, ceux qui sont partis, c'est leur problème, nous on ne leur demandait pas de partir. On peut se demander si cet argument a un quelconque sens. Et les chants, les musiques que vous entendez en ce moment, eh bien, c'était des jeunes, un groupe de jeunes de 16-17 ans du camp de Deyché, qui se trouve à Bethléem, un camp de réfugiés immense qui, aujourd'hui, il y a 8000 habitants dans ce camp de réfugiés, qui depuis 1947 a quand même réussi à supprimer les tentes pour remplacer les tentes par des maisons en dur, mais qui ont été en partie construites grâce à l'aide de l'ONU sur le terrain, en Palestine, qui s'appelle l'UNRWA sur le terrain. Et ces maisons, eh bien, ce sont des petites maisons avec très peu de confort. Je me suis fait accueillir dans l'une de ces familles, je vais vous en parler tout de suite. Et rien que pour vous imaginer, dans cette famille, ils ont vécu pendant longtemps avec 9 enfants, plus les parents. Il y a une pièce assez grande, si je dirais, du genre 3 mètres sur 4, qui sert de salon, salle à manger, si je puis dire, c'est-à-dire de pièce de rencontre de tout le monde, où l'on mange par terre sur un tapis que l'on étale pour l'occasion. Et puis, il y a une pièce à peu près de la même taille pour accueillir les garçons et les hommes. Il y a une autre pièce pour accueillir les femmes, les filles. Et puis, il y a la cuisine, une petite salle de bain qui, visiblement, a été rajoutée au fur et à mesure. Les toilettes sont dehors, comme dans nos chalets de nos montagnes. Il y a de l'eau qui coule au robinet, il y a du gaz à la cuisinière, mais on sent que l'établissement est précaire. Et puis, les ruelles sont en terre. On s'imagine que lorsqu'il pleut, ça ne doit pas être très facile de se déplacer. Les ruelles sont très petites. Les maisons sont vraiment très rapprochées les unes des autres. Eh bien, c'est les enfants du camp, les jeunes du camp de Deyché qui avaient prévu pour ce congrès 50 ans sous la tente, qui réunissait tous les représentants des camps de réfugiés, des petits spectacles, beaucoup de danse, de mouvements, des chants qu'ils chantaient eux-mêmes, et puis souvent des images très symboliques, c'est-à-dire par exemple la vie des chants, et puis tout à coup un personnage noir qui arrive, et on comprend soit par le dramatique de la musique, soit par l'attitude des jeunes comédiens et danseurs, que c'est l'oppression de l'occupant qui les empêche de continuer à faire leur travail de la terre, qui oblige les femmes à s'agenouiller et les hommes à partir enchaînés. Ça, c'est les travaux de la terre et la vie de village.
Thank you.
Je vous le disais, j'ai moi-même eu l'occasion d'aller à Deiche Camp parce que je brûlais, et c'était la raison de mon voyage avant toute chose, de rencontrer la famille du petit garçon que ma famille parrainait depuis plus de 7 ans. À cette antenne dans Remue-Ménage, eh bien, nous avions reçu deux femmes qui nous parlaient de cette action parrainage pour des enfants palestiniens par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Inach El Usra, qui se trouve à El Bireh, près de Ramallah aussi. Association qui forme surtout des femmes, qui donne à des jeunes femmes l'occasion d'avoir une formation professionnelle et puis qui organise cette action de parrainage avec la Suisse. Et j'avais très envie d'enfin rencontrer le petit Awad, qui est plus si petit que ça, puisqu'aujourd'hui il a 14 ans, et sa famille. On s'écrivait depuis longtemps, mais se rencontrer, c'était évidemment un rêve qu'ils avaient exprimé beaucoup, beaucoup de fois, et que, bien sûr, je caressais mes enfants aussi, hélas. Ils n'ont pas été du voyage, mais j'ai été accueillie comme une reine quand je suis arrivée chez eux.